décryptage.
Loïc Bussière.
Pour la huitième fois depuis 2011, le Japon a retenu son souffle en ce début mars, en souvenir de cette journée funeste quand un séisme suivi d'un tsunami ont frappé le nord de l'archipel, entraînant une explosion dans la centrale de Fukushima Daiichi. Un accident nucléaire dont on sait depuis qu'il est le plus important après celui de Tchernobyl en 1986. 8 ans après, donc, que reste-t-il de cette catastrophe qui laisse derrière elle près de 19 000 morts? À croire les autorités nippones, pas grand-chose, ou presque, les autorités nippones qui affirment avec assurance qu'il est désormais possible de mener une vie normale autour de la centrale. Faux, répondent de concert ONU et ONG. De fait, de nombreuses questions restent sans réponse autour de Fukushima, à commencer par celle de la contamination des eaux, celle du Pacifique, celle encore utilisée pour refroidir les réacteurs accidentés dont les stocks gonflent au fil des jours et qui pourraient finir dans l'océan. Fukushima, quel risque 8 ans après la catastrophe nucléaire? On en parle dans Décryptage. Avec nos invités Bruno Charéron et Christine Fassert. Bonsoir Christine Fassert.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en socio-anthropologie, chercheur au laboratoire de sciences humaines et sociales de l'IRSN, c'est l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Et vous co-signez avec votre collègue japonaise Reiko Hasegawa le rapport Shinrai. Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots ce qu'est ce rapport ?
Alors, c'est un rapport qui relate un projet de recherche que nous avons mené ces dernières années, donc avec Reiko Hasegawa, qui fait partie du Media Lab de Sciences Po, également l'université Tokyo Tech, donc au Japon. Et donc, ce rapport parle des conséquences sociales de l'accident de Fukushima. Donc, nous avons mené environ 120 entretiens avec des habitants, avec des experts, avec des responsables gouvernementaux pour comprendre mieux ces conséquences.
Et on va en parler en ligne avec nous également depuis Valence. Bruno Charéron, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ingénieur en physique nucléaire, directeur du laboratoire de la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. La CRIRAD, on va revenir avec vous sur le côté scientifique de cette catastrophe de Fukushima. On va se pencher tout d'abord sur la première conséquence de ce qui s'est passé il y a 8 ans donc dans le nord du Japon à Fukushima, la conséquence humaine, au-delà du bilan bien évidemment que j'évoquais à l'instant, 19 000 personnes disparues pratiquement, des disparus qui se comptent parmi les victimes à la fois du séisme, du tsunami et de l'accident de la centrale de Fukushima Daiichi. Christine Fassert, 8 ans après cet accident, des dizaines de milliers de personnes sont toujours privées de foyer.
Tout à fait. Il reste encore 42 000 personnes évacuées. Les zones ont été évacuées, mais qu'ensuite ont été organisés des retours dans les villages évacués, le taux de retour des évacués reste encore assez faible, puisqu'il est environ de 15% en moyenne, avec une grande disparité d'un village à un autre.
Pourtant, les autorités nippones encouragent en ce moment les habitants à revenir vivre justement dans la région. Je vais citer le ministre de la Reconstruction, Hiromichi Watanabe, qui a affirmé hier, en marge des commémorations justement de cette catastrophe de Fukushima, qu'il est, je cite, « possible de mener une vie normale ». Qu'est-ce que ce constat vous évoque ?
Alors, effectivement, on voit bien que le gouvernement est très volontaire, veut vraiment montrer, tourner la page sans doute, aller vers une reconstruction et puis marquer un petit peu la fin de l'accident, notamment avec l'organisation effectivement des Jeux Olympiques. Mais face à cela, on a des réactions des habitants qui sont très différentes. Certains habitants effectivement veulent tourner la page, par exemple des seniors qui souhaitent rentrer dans leur maison, qui souhaitent reprendre leur vie d'avant. Et ceux-là effectivement sont à peu près, je dirais, en phase avec les souhaits du gouvernement. Mais il existe aussi une autre partie de la population qui par contre ne souhaite pas rentrer et parfois est rentrée contrainte et forcée parce que les aides, les compensations qui étaient versées ont été stoppées. Et donc, dans ce cas-là, on fait face à de grandes souffrances, de grandes inquiétudes, notamment de la part de mères, d'enfants en bas âge. Il faut savoir que les radiations ionisantes sont plus dangereuses pour les enfants que pour les adultes. Et ces femmes nous ont dit toute leur inquiétude face à cette situation. Donc, certaines ont choisi de ne pas revenir et donc habitent désormais très loin de Fukushima et ne reviendront pas. Et d'autres, et c'est peut-être le cas le plus émouvant, le plus touchant, d'autres sont revenus, mais vivent avec une sourde inquiétude.
Alors, on va se tourner justement vers Bruno Chariron. J'évoquais à l'instant, Monsieur Chariron, cette déclaration du ministre de la Reconstruction japonaise. Il est possible de mener une vie normale autour de Fukushima. Est-ce que ce constat, de votre point de vue, se heurte à une réalité scientifique ?
Ce constat est totalement révoltant et totalement mensonger. On ne peut pas retourner actuellement à une vie normale dans les zones qui ont été évacuées dans la préfecture de Fukushima. Et d'ailleurs, ça peut être le cas aussi d'autres secteurs, d'autres préfectures proches. On ne peut pas y retourner tout simplement parce que malgré les travaux de décontamination, la radioactivité reste beaucoup trop élevée. Il faut bien comprendre qu'il est impossible de décontaminer complètement un territoire. Et même, c'est impossible de décontaminer une seule maison. Nous avons fait des contrôles en ce qui nous concerne sur des lieux qui ont été soi-disant décontaminés. Même si des techniciens ont travaillé pendant des semaines à laver au karcher les rochers, à décaper la couche supérieure du sol juste autour de la maison et à ébrancher les arbres de la forêt proche, la radioactivité qui reste déposée sur les sols un peu plus loin est tellement puissante, les radiations gamma invisibles émises par le césium-137 sont tellement puissantes qu'elles peuvent parcourir des dizaines et des dizaines de mètres. Donc, les personnes qui vont revenir dans cette maison vont continuer à être exposées à des radiations à des taux qui dépassent les normes sanitaires. Et ce qui se passe au Japon est vraiment extrêmement grave. C'est un État qui fait tout pour laisser revenir des populations, y compris des enfants, dans des zones qui d'habitude sont considérées au vu des connaissances sur les effets des radiations ionisantes comme des zones dangereuses qui ne devraient pas être habitées.
Est-ce que Bruno Chariron, ça veut dire justement que ces déclarations du gouvernement japonais, c'est lever des ordres d'évacuation dans la zone de Fukushima, est-ce que pour vous c'est au mieux inconscient, au pire criminel ?
Bon, moi je pense que quelque part on a le droit d'utiliser le mot criminel en ce sens que exposer volontairement des êtres humains à des risques sanitaires qui sont habituellement jugés inacceptables, quelque part, c'est une démarche qui peut être qualifiée effectivement de criminelle ou, disons, d'irresponsable. Et ce qui est particulièrement grave, c'est que, comme ça a été très bien expliqué par votre intervenante, ces populations sont otages de la situation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le gouvernement a supprimé les quelques aides qu'avaient les gens qui avaient été évacués de force, ces gens se retrouvent dans une situation qui est extrêmement difficile et qui conduit à des suicides, à des divorces, à des situations qui sont extrêmement difficiles. Oh. Mais c'est malheureusement la réalité d'une catastrophe nucléaire, c'est qu'en fait, ce sont les populations qui paient le prix fort et pas les industriels.
On va redonner la parole justement à Christine Fassert, co-auteure, je le rappelle, d'un rapport de l'IRSN, l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, rapport dans lequel vous regrettez justement que la question des conséquences des radiations sur la santé soit rendue taboue.
Oui, effectivement. C'est un médecin qui nous avait dit cela pendant un entretien. Il nous a dit que la question des dangers des radiations ionisantes est devenue une question taboue. La plupart de mes collègues ne veulent pas l'aborder avec leurs patients. Alors, pourquoi est-elle taboue ? Parce que finalement, c'est aussi une question qui s'est politisée. En gros, si vous êtes, si vous êtes inquiet sur les radiations ionisantes, ça veut dire que vous êtes plutôt anti-nucléaire, donc anti-gouvernement. Et dans l'autre sens, effectivement, si vous êtes plutôt optimiste sur les radiations ionisantes, ça veut dire que vous êtes pro-gouvernement. Donc il nous expliquait que c'était une question qui était peu abordée dans l'espace familial, dans l'espace social, parce que c'était une question qui automatiquement pouvait générer des disputes. Et lui-même, en tant que médecin, regrettait qu'il soit difficile d'aborder cette question, y compris avec ses patients. Voilà.
Dès le départ, pour revenir justement à cette dimension politique, il y a eu des lacunes dans les politiques de l'impact sur la population, sur le contrôle des aliments, par exemple. Bruno Chariron, est-ce que dès le départ, dès mars 2011, les politiques n'ont pas réagi de la bonne manière ?
C'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Ce qui s'est passé dans les premiers jours de la catastrophe, donc à partir du 11 mars 2011, c'est quelque chose qui est totalement invraisemblable. Par exemple, le fait qu'il n'y ait pas eu de distribution massive de pastilles d'iode qui permettent, vous le savez, de saturer la glande thyroïde en iode stable et donc de limiter les doses subies du fait de l'inhalation d'iode radioactif qui est rejeté par la centrale. Deuxièmement, le fait qu'il a fallu attendre pratiquement une semaine avant que les premiers contrôles soient effectués par les autorités sur les aliments. Or, tout le monde sait qu'à partir du moment où il y a des rejets radioactifs dans l'atmosphère, il y a des retombées au sol et donc contamination des végétaux, par exemple, et de l'ensemble de la chaîne alimentaire. Ce qui s'est donc passé, c'est que pendant plusieurs jours, des citoyens ont pu consommer des aliments qui présentaient des niveaux de contamination tels que, en consommant quelques grammes, un enfant pouvait dépasser la dose maximale annuelle admissible à la thyroïde. Par ailleurs, la façon dont les gens ont été évacués n'est pas cohérente. Il n'a pas été pris en compte la direction réelle des vents pour organiser les évacuations juste après les retombées, ce qui fait que des gens ont été parfois évacués vers des zones qui étaient plus contaminées que celles dont ils étaient originaires. Donc d'une manière globale, ce qui s'est passé, c'est vraiment quelque chose qui nous, en tout cas à la CRIRAD, nous a complètement révoltés compte tenu de tout ce qu'on sait depuis Tchernobyl, voir qu'un État moderne comme le Japon à gérer cette catastrophe de cette façon-là, c'est vraiment invraisemblable.
Christine Fassard, je vous redonne la parole justement. Un commentaire sur ce que Bruno Charron vient de dire. Est-ce que, justement, lors des entretiens que vous avez menés, pour plusieurs années, sur ce rapport que vous co-signez avec Reiko Hasegawa, est-ce que vous avez perçu justement ce doute sur la direction dont les politiques justement ont géré la façon dont les politiques ont géré cette situation.
Oui, certains habitants sont très amers sur la façon dont tout ça s'est passé, et notamment une caractéristique de la communication gouvernementale au début, ça a été d'avoir un discours à tout prix rassurant, c'est-à-dire par exemple dire il n'y a pas de problème en dessous de 100 millisieverts. Un discours assez simple, rassurant. Il y a même eu des bêtises de dites. Un conseiller spécial du gouvernement a dit les radiations ionisantes ne font pas de mal à ceux qui gardent le sourire. Donc voilà, après une bêtise pareille, on peut bien imaginer que ça génère de la perte de confiance, ça génère des doutes énormes du côté des habitants. Nous, ce qui nous a intéressé aussi, c'est d'aller voir ces responsables gouvernementaux et ces experts qui ont communiqué au moment de l'accident et de comprendre comment à froid ils voyaient les choses quelques années après. Et c'est intéressant de voir que certains experts gouvernementaux sont effectivement très critiques sur ce qu'ils ont fait. Par exemple, une personne du gouvernement nous a dit « Nous avons commis un peu la même erreur que ce qu'on a commis au moment de la maladie de Minamata. » Alors, pour rappel, pour nos auditeurs, la maladie de Minamata, c'est une des plus grosses catastrophes industrielles au Japon, une pollution industrielle qui a fait des milliers de morts. Et voilà, donc ça nous a particulièrement impressionnés. Et puis, un expert en radioprotection nous a dit « Moi, j'avais l'impression qu'en tant qu'expert, mon travail, c'était de rassurer. Parce qu'on sait que les gens ont peur des radiations ionisantes. Alors, de façon un peu automatique, on a rassuré. Et on est aussi parfois très mal, pris le tournant entre une communication de crise, on est obligé d'être extrêmement simple et bien sûr simpliste et bien sûr faux scientifiquement. Et puis après, une communication à plus long terme où il aurait fallu expliquer de façon plus scientifique et plus détaillée les risques des radiations ionisantes. Et ça, ça a pas toujours été, le tournant n'a pas toujours été bien pris. Et ce sont les experts eux-mêmes qui le reconnaissent quelques années après et qui le regrettent pour certains.
Alors, pour revenir justement à ce qui se passe, aux problèmes qui se posent aujourd'hui autour de Fukushima, je voudrais qu'on revienne justement sur deux problématiques qui sont intimement liées, la question de la contamination en mer et celle de l'eau qui est utilisée pour refroidir les réacteurs de la centrale de Fukushima, une eau qui est stockée massivement, très massivement près du site et dont on ne sait pas vraiment quoi faire, Bruno Charron.
Oui, c'est-à-dire que à Fukushima, il y a trois cœurs de réacteurs nucléaires qui ont fondu et qui ne sont plus confinés. C'est-à-dire que vous avez une matière qui est hautement radioactive, qui s'appelle le corium, qui contient des éléments radioactifs de très longue période physique et de très haute radioactivité. Cette matière doit être refroidie en permanence. Donc, TEPCO injecte en permanence entre 200 et 400 mètres cubes d'eau par jour pour refroidir ces cœurs sous peine de reprise de réactions violentes pouvant être explosives. Cette eau, évidemment, se contamine de façon très importante, puis s'infiltre dans les sous-sols, où elle rencontre d'ailleurs d'autres eaux contaminées en provenance des nappes phréatiques. Et TEPCO est obligée de repomper en permanence, toutes ces eaux, de les décontaminer plus ou moins. Comme la décontamination est loin d'être parfaite, ces eaux ensuite ne peuvent pas être rejetées dans l'environnement et s'accumulent. On considère aujourd'hui qu'il y a plus d'un million de mètres cubes d'eau radioactive accumulée dans un millier de gigantesques réservoirs. Et TEPCO essaie de se débarrasser de ces eaux en obtenant l'autorisation de les rejeter directement en mer.
Pour que nos auditeurs comprennent bien, voilà, un million de tonnes d'eau, c'est à peu près 500 piscines olympiques. Aujourd'hui, l'AIEA presse le Japon de trouver une solution en urgence justement concernant cette eau.
Mais bien sûr qu'il faut trouver une solution parce que pour l'instant, la quantité d'eau radioactive qui s'accumule dans des cuves ne cesse d'augmenter. Donc il va y avoir un moment où TEPCO n'aura plus de capacité d'entreposage. Donc la solution, il faut la trouver. Maintenant, existe-t-elle? Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, TEPCO fait pression pour rejeter ses eaux directement dans le Pacifique. Or, ces eaux sont très contaminées, non seulement par du tritium, plusieurs millions de becquerels par litre. Le tritium, c'est de l'hydrogène radioactif. Et l'hydrogène, c'est un composant de base de la vie. Donc, rejeter du tritium radioactif dans l'environnement, c'est accepter finalement de retrouver ensuite partout, dans l'ensemble des êtres vivants marins, que ce soit les algues ou que ce soit les poissons. Et puis cette eau contient d'autres éléments radioactifs, ce qui a été longtemps caché par TEPCO d'ailleurs, et des travaux récents ont montré que en réalité ces eaux contenaient beaucoup, par exemple, de strontium-90, qui est un autre élément radioactif. Donc ce problème des eaux n'est absolument pas résolu, comme d'ailleurs, en fait, pratiquement aucun des problèmes qui se posent à Fukushima.
Je reste un instant avec vous, Bruno Chareron, pour évoquer la question de la pollution en mer. Est-ce qu'on sait aujourd'hui évaluer l'effet qu'aurait un geste qui consisterait à déverser un million de tonnes d'eau contaminée dans l'océan Pacifique?
L'océan Pacifique a déjà subi les rejets en mer qui ont été extrêmement importants dans les premières semaines et les premiers mois après la catastrophe. L'océan Pacifique a subi aussi les retombées, les rejets atmosphériques qui se sont dirigés vers l'océan et qui ont produit des retombées. Et il y a aujourd'hui en permanence des transferts vers l'océan Pacifique, des substances radioactives qui ont été déposées sur les sols, en bordure des rivières, ce qui fait que dès qu'il pleut, évidemment, une partie de cette radioactivité déposée sur les sols par les nuages radioactifs se retransfère dans l'océan Pacifique. Donc, est-ce bien raisonnable d'en rajouter encore? Ça va continuer à introduire des éléments radioactifs dans l'ensemble du milieu marin, de la chaîne alimentaire. Et à partir du moment où, en matière d'exposition à la radioactivité, il n'y a pas de seuil d'innocuité, c'est continuer dans ce mécanisme d'admettre une sorte de pollution généralisée due à la catastrophe nucléaire. Il y a un moment où il faut dire stop. Parce que ce qui se passe à Fukushima, c'est que toutes les réglementations habituelles de protection de la santé et de l'environnement sont violées. Des doses qui d'habitude ne sont pas tolérables sont admises maintenant pour les travailleurs. Des doses qui d'habitude ne sont pas tolérables sont maintenant admises pour la population, y compris les enfants. Des déchets qui d'habitude sont considérés comme radioactifs et ne peuvent pas se retrouver dans l'environnement se retrouvent dans l'environnement. Donc c'est vraiment la... comment dire?
On a bien compris en tout cas que la situation était extrêmement compliquée autour de Fukushima. Bruno Chareron, Christine Fassert, un dernier mot rapidement sur justement ce que peut inspirer cette situation, en tout cas d'un point de vue purement scientifique, aux habitants que vous avez pu rencontrer. Est-ce qu'ils sont conscients de ça?
Ah oui, beaucoup en sont tout à fait conscients et donc d'où les inquiétudes dont je parlais. Après, selon leur appréhension du risque, soit ils sont plutôt envie de l'oublier et de dire moi j'essaie de vivre comme avant, c'est le cas des personnes âgées, soit ils vont fuir, soit ils vont s'inquiéter. Donc en fait, il y a une appréhension du risque très difficile.
On n'en dira pas davantage ce soir. Merci Christine Fassert.